Le récit que nous venons d'entendre se déroule dans le temple. Nous remarquons que Jésus parle à la foule et à ses disciples devant les scribes et les pharisiens. À travers son message, Jésus adresse à ces derniers des reproches très sévères. Il ne mâche pas ses mots. Car ils sont là, les chefs religieux. Ils écoutent aussi. Mais ils sont silencieux, muets et furieux. Nous allons voir pourquoi ils sont réduits au silence. N'est-ce pas, inlassablement, et à de nombreuses reprises, ils avaient essayé par des questions pièges de surprendre Jésus pour le mettre en défaut, car ils voulaient à tout prix le discréditer dans son enseignement pour le mettre en difficulté aux yeux de la foule. Ah, ces questions pièges que ces scribes et pharisiens essayaient d'avoir. Ils ont dû en passer du temps pour les élaborer, les réfléchir. Mais nous, nous connaissons les réponses admirables de notre Seigneur, pleines de bon sens, de simplicité et surtout imparables quant à leur logique. Nous allons en examiner quelques-unes. Par exemple, lorsque les pharisiens et les hérodiens lui posèrent la question sur le tribut à payer à César, Jésus répond « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Là, c'est une réponse qui est précise et nette et sans bavure. Il y a aussi la réponse qu'il a faite aux Sadducéens lorsque ceux-ci lui posent la question au sujet de la résurrection. Voilà ce qu'il dit. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Ça, c'est une réponse. C'est une réponse d'ailleurs sans appel qui souligne leur manque de connaissance et de compréhension des Écritures. C'est d'ailleurs un peu la même réponse qu'il a fait à Nicodème en parlant de la nouvelle naissance, lorsqu'il lui dit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses ?» Là aussi, c'est un reproche qui est assez sévère. Et c'est un reproche sur le manque de connaissance. Nicodème, qui pourtant était un chef des Juifs, donc un personnage important. Il y a aussi, souvenons-nous, le récit de la femme adultère. Lorsque Jésus répond aux pharisiens que celui qui est sans péché jette la première pierre. Quelle sagesse dans cette réponse. Et que se passa-t-il alors? Ils s'éclipsèrent tous, les uns après les autres, à commencer par les plus anciens. Échec total. Pourtant, ils étaient venus triomphants, ils étaient sûrs d'eux, ils étaient sûrs de pouvoir mettre Jésus en défaut. Avec Moïse et la loi comme appui, ils étaient sûrs d'arriver à leur fin. Mais non, échec total. Jésus sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Alors il prend l'initiative et pose une question à son tour, une question subtile aux scribes et aux pharisiens. Voilà ce qu'il leur dit. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ? Les pharisiens répondent, de David. Alors Jésus s'étonne et leur demande, comment peut-il être son fils, puisque David, animé de l'esprit, l'appelle Seigneur ? Cette question-réponse de Jésus les laisse muets. Ils ne savent pas quoi répondre. Et juste avant le texte que nous venons de lire, on peut lire à la fin du chapitre 22, « Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. » On ne peut que s'émerveiller de voir la façon dont Jésus déjoue les questions-pièges de ses adversaires et de voir que justement ses adversaires ne purent jamais ni lui résister, ni le contredire. La foule, elle, était fascinée par son enseignement. Elle était étonnée par sa grande connaissance de l'Écriture et la puissance de son message. Car lorsque Jésus parlait, il affirmait. Et ce qu'il disait n'était jamais remis en question. Par exemple, quand il disait « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens ?» Lui pouvait répondre en disant « Mais il est aussi écrit, mais moi je vous dis. » Et quelquefois, lorsque l'adversaire lui citait un verset, il en corrigeait l'interprétation, justement en disant « Il est aussi écrit. » Alors cette connaissance parfaite des Écritures intriguait la foule, car Jésus n'avait pas fait d'études de rabbin. Il n'était que charpentier. Il était le fils de Marie, que tout le monde connaissait. En plus, un obscur citoyen de cette petite localité qui s'appelait Nazareth. Alors, nous comprenons pourquoi les pharisiens et les scribes étaient silencieux. Ils n'osaient plus provoquer Jésus, car à chaque fois, ils perdaient la face. Et perdre la face devant la foule, ils ne pouvaient pas le supporter. Dans son discours à la foule et aux disciples, Jésus veut les mettre en garde contre les erreurs religieuses. Il leur dit « Faites donc et observez tout ce qu'ils disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Par cette observation, nous remarquons que Jésus ne critique pas leur enseignement. Non, il leur reconnaît même une certaine compétence. Il ne conteste pas non plus leur doctrine ni leurs principes. Ce qu'il leur reproche, c'est de ne pas se les appliquer, car ils disent et ne font pas. Mais ces paroles nous parlent aussi, car cela veut dire que le mauvais exemple d'un chrétien responsable ne pourra jamais excuser notre responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'un individu, par sa manière indigne de vivre, nous détourne de notre chemin. Chacun de nous a le devoir d'examiner toute chose et de retenir ce qui est bon, et de s'abstenir de toute espèce de mal. Ils disent et ne font pas. D'où provient ce désaccord entre la théorie et la pratique? Jésus nous donne la réponse. C'est la recherche de l'approbation des hommes, sans s'inquiéter de celle de Dieu. Les pharisiens, dans leur zèle, avaient poussé à l'extrême, en ajoutant les 613 commandements à leur tradition. Le fardeau était devenu très pesant pour le peuple. C'est d'ailleurs souvent la manie de beaucoup de systèmes religieux que de dresser des listes de règles qui gouvernent les actes de la vie religieuse de ses adhérents. Et ce que Jésus reproche, c'est de cacher sous une façade de respectabilité un cœur plein de malice et d'iniquité. Quel contraste entre ces pharisiens et l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui, lui, peut dire, je cite ce que nous avons lu tout à l'heure, « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge de personne. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. » Quelle joie pour Paul de pouvoir dire cela, de pouvoir dire que sa vie était en concordance avec ce qu'il disait. C'est notre manière de vivre qui doit attirer notre prochain vers Jésus. Car notre manière de vivre doit refléter notre foi en sa mort sur la croix. Il est dit dans notre récit que les pharisiens font toutes leurs actions pour être vus des hommes et qu'ils portaient de larges phylactères. L'habitude de porter ces phylactères est basée sur le chapitre 6 du Deutéronome, je cite, « Que ces ordres soient attachés comme un signe sur vos mains et comme une marque sur votre front. » Il nous est dit en plus qu'il les portait plus larges et plus longs que les autres juifs. Eh bien, c'est ce détournement de la piété vers l'exaltation de l'homme que leur reproche Jésus. N'est-ce pas, lorsque les marques extérieures de la piété ne correspondent plus à la réalité intérieure de la personne, il y a hypocrisie. Il est dit aussi qu'ils aimaient la première place dans les festins, dans les synagogues, à être salués dans les places publiques et à être appelés maîtres par les hommes. Malgré leur apparence anodine, ces péchés sont aussi répréhensibles devant Dieu que le meurtre, le vol, l'adultère. Il est amer de constater que justement ces péchés sont difficiles à éviter. Et c'est pourquoi il faut demander au Seigneur qu'il ouvre nos yeux pour découvrir le sérieux de ces péchés. Car il est certain que plus ou moins, personne n'en est tout à fait exempt. Celui qui veut cultiver les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, se verra tous les jours obligé de déraciner les mauvaises herbes, comme la recherche des privilèges, la course aux honneurs, la mauvaise humeur, l'égoïsme. Ce que le Seigneur reproche aux pharisiens est tellement universel, tellement humain, que nous en reproduisons tous, plus ou moins, l'attitude. Il n'y a qu'un moyen d'échapper à la recherche de soi-même et de sa propre gloire, c'est de tout faire par amour. Lorsque nous lisons au verset 8 du chapitre qu'on a lu, « Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, et vous, vous êtes tous frères. » Nous voyons que Jésus veut nous éloigner de la prétention que nous pourrions avoir, la prétention d'être les dépositaires exclusifs de la bonne doctrine, de la vérité. C'est Dieu seul qui peut enseigner la vérité absolue. Nous, nous ne faisons que nous en approcher. C'est ainsi que le chrétien, avec la lumière qu'il a reçue, doit conduire les autres vers la bonne nouvelle de l'Évangile. Redoutable et merveilleuse responsabilité que celle des parents, des éducateurs, des moniteurs, des catéchètes, qui doivent préparer l'enfant à sa rencontre personnelle avec Dieu. Il est dit également, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » La loi ancienne est parfaite, et elle est toujours valable aujourd'hui. Il y aurait danger pour nous de croire que Jésus est venu rendre la foi plus facile, la loi plus facile, ou pour diminuer ses exigences et l'adapter à notre faiblesse. Dieu n'a qu'une loi, et cette loi est parfaite. Jésus a enduré jusqu'à la mort ces redoutables exigences de la loi que nous ne pouvons pas suivre. Il les a endurés pour que nous puissions, par notre foi en lui, bénéficier de la grâce de Dieu. Il a dit, « Je suis venu pour accomplir, non pour abolir. » Et lorsqu'il résume le fondement de la loi par les deux commandements que nous connaissons, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il veut nous faire comprendre à tous que c'est l'amour qui doit être la base, la règle de toutes nos pensées, paroles et actions. Dieu est amour. Il ne veut que notre bien. Et la joie de la foi doit être notre réponse à cet amour de Dieu. Mais pas la joie superficielle et factice du monde. Non. La joie du royaume de Dieu, de l'amour de la justice qui est notre espérance. De cette joie qui s'appelle reconnaissance lorsqu'on est heureux, de cette joie qui s'appelle soutien lorsqu'on traverse les difficultés, et de cette joie qui s'appelle réconfort lorsqu'on est dans le deuil et dans la souffrance. Nous savons que ces trois choses, que de ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, c'est l'amour qui demeurera éternellement, car c'est le lien de la perfection. Gloire à notre Dieu. Amen.